3 apparaît tout de suite le sport. Avec Antoine Grenier ce matin. Bonjour Antoine.
Bonjour Andréane.
La première phase de la Ligue des Champions s'est donc achevée et les noms des qualifiés pour les huitièmes de finale sont connus.
Il y avait ceux qu'on attendait, Liverpool, Barcelone, Arsenal ou l'Inter Milan, et puis d'autres qu'on attendait moins. Lille se glisse ainsi dans le groupe des favoris en prenant la 7e place juste devant Aston Villa qui se qualifie directement et envoie l'Atalanta Bergame en barrage. Beaucoup de noms ronflants devront d'ailleurs passer par ces 16e de finale. Le Real Madrid, le Bayern Munich, l'AC Milan, le Paris Saint-Germain ou encore Manchester City, des favoris aux côtés duquel figurera Brest. Les Bretons finissent 18e de cette phase initiale après avoir été sévèrement battus par le Real 3-0 dans un match où les Brestois, comme le défenseur franco-malien Soumaïla Koulibaly, auront oscillé entre fierté d'avoir regardé les rois d'Europe dans les yeux et les regrets des occasions manquées.
Je pense que l'équipe en général, on a fait une assez bonne prestation. Le résultat, il est un peu lourd, malheureusement. Mais ouais, on ressort fier du contenu du match. Et malheureusement, on n'a pas su marquer un but, ou bien deux, ou bien trois. Mais on est content d'avoir fait tout ce parcours-là.
Soumaïla Koulibaly avec Thomas de Saint-Léger, Brest et tous les autres connaîtront leurs futurs adversaires lors du tirage au sort qui aura lieu vendredi à Nyon, en Suisse.
Et à une quarantaine de kilomètres, ce jeudi se déroule le grand oral des candidats à la présidence du CIO.
À Lausanne, très précisément, avec cette question: qui succédera à Thomas Bach? L'Allemand, à la tête du Comité international olympique depuis 2013, ne se représente pas. 7 candidats briguent sa succession et ce jeudi à Lausanne, donc c'est le grand oral, notamment une étape importante qui se joue pour l'ancienne nageuse zimbabwéenne Kirsty Coventry, double championne olympique 2004 et 2008. Déjà très présente au sein des instances, celle qu'on décrit comme la favorite du président sortant a de sérieux atouts pour séduire les votants, Christophe Diremzian.
À elle seule, Kirsty Coventry semble réunir toutes les qualités nécessaires à l'évolution d'un CIO où les plafonds de verre restent solides. Plus jeune prétendante en lice, à 41 ans, l'ex-reine du dos et du quatre nages serait en quête de victoire la première femme et issue de l'Afrique à prendre la tête d'une institution constamment dirigée depuis sa création par un Européen ou un Nord-Américain. Mais au-delà des symboles et du modèle inspirant, son élection couronnerait l'ascension rapide d'une championne olympique impliquée très tôt dans les enjeux liés au sport mondial. Entrée au comité en 2013 par la commission des athlètes qu'elle dirige de 2018 à 2021. Ses responsabilités vont grandissant. Présidente des commissions de coordination des Jeux de la Jeunesse de Dakar 2026 et des Jeux d'été de Brisbane 2032, tout en étant ministre des Sports du Zimbabwe et membre de la commission exécutive du CIO, véritable tour de contrôle du pouvoir. Ses priorités comme candidate ne diffèrent guère de ses concurrents: enjeux climatiques, usage équitable de l'intelligence artificielle dans la performance ou meilleure diffusion des Jeux Olympiques via les plateforme numérique. Mais cette maman d'une fille de 5 ans veut aussi mieux accompagner les sportives mères dans leur carrière et les défendre face aux violences sexistes.
Et l'élection du futur président du CIO sera organisée en Grèce le 20 mars prochain.
On termine, Antoine, avec le basket et la saison de la révélation continue pour Yves Michie en NBA.
L'intérieur camerounais des Pelicans de la Nouvelle-Orléans fait partie des joueurs convoqués pour le Rising Star Challenge, le match des valeurs montantes du basket nord-américain qui se jouera le 14 février prochain.
Merci Antoine, vous revenez tout à l'heure à 7h13.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
En République démocratique du Congo, dans une allocution télévisée hier soir, le président Félix Tshisekedi appelle à la mobilisation et assure qu'une riposte vigoureuse et coordonnée, ce sont ses mots, est en cours face au M23 soutenu par l'armée rwandaise qui occupe plusieurs quartiers de Goma. La journée d'hier marquée par un calme relatif par rapport aux précédentes. Le président congolais a aussi interpellé la communauté internationale et fustige ce qu'il qualifie de passivité qui frôle la complicité aux habitants de la capitale provinciale du Nord Kivu, théâtre de violents affrontements depuis plusieurs jours, manquant de vivre, de soins et sans électricité, sans internet. Félix Tshisekedi dit ressentir leur douleur et appelle à l'unité nationale. L'actualité de la nuit, marquée par cette collision aérienne entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire au-dessus de Washington. L'avion s'est ensuite abîmé dans le fleuve Potomac près de la ville. Selon la compagnie aérienne American Airlines, 60 passagers étaient à bord, 4 membres d'équipage. Une opération de recherche et de sauvetage est en cours sur les lieux du drame. Cette collision aurait dû être évitée, a réagi Donald Trump. Et puis aujourd'hui, dans le cadre de la première phase de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas, un troisième échange doit s'opérer aujourd'hui. 110 prisonniers palestiniens contre 8 otages israéliens. Un quatrième échange est prévu samedi. Notre grand invité Afrique ce matin, Karine Ramondi, est l'une des 14 autrices et auteurs du rapport chargé de se pencher sur le passé colonial qui lie la France et le Cameroun et le rôle de Paris dans la répression des mouvements indépendantistes au Cameroun. Rapport de la commission Ramondi remis la semaine dernière au président Macron et ce mardi au président Biya. Et dans le texte, cette affirmation, à la fin des années 50, la France a mené au Cameroun, je cite, une guerre marquée par des violences extrêmes. Karine Ramondi répond aux questions de Christophe Babouvier.
Karine Ramondi, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi dites-vous que la France a mené une guerre totale au Cameroun ?
Déjà, on commence par dire que la France a mené une guerre au Cameroun, une guerre de décolonisation. C'est déjà posé quelque chose qui ne va pas de soi, surtout en France, où cette page d'histoire est relativement méconnue, même s'il y a eu déjà des ouvrages fondateurs sur cette question. Pourquoi une guerre totale ? Parce qu'on part évidemment du constat qu'il y a eu véritablement des violences répressives qui ont été exercées par les autorités coloniales et l'armée française avant et après l'indépendance, et que ces violences se sont peu à peu inscrites dans ce qu'on appelle la doctrine de la guerre révolutionnaire, qui pratique donc un certain nombre de violences physiques, psychologiques, des violences collectives, des déplacements forcés de population. Pourquoi déplace-t-on les populations ? Parce qu'une population regroupée, c'est une population qui est coupée de ses bases familiales, claniques, et ça permet aussi, quand on regroupe les populations, de mieux les contrôler et d'avoir une véritable action psychologique sur ces personnes.
Le 13 septembre 1958, Ruben Oumniobé est abattu dans le maquis. Ses carnets personnels sont alors saisis par l'armée française, mais depuis, ils sont introuvables. Est-ce que vous avez pu en savoir plus ?
Alors écoutez, oui, parce qu'évidemment, on savait qu'il y avait une très forte attente sur ces carnets. Nous les avons vraiment retourné toutes les archives de Vincennes pour retrouver ces carnets. Nous n'avons malheureusement pas pu retrouver ces carnets. Par contre, là où nous avons fait une véritable avancée, me semble-t-il, c'est que ces fameux carnets ont été retranscrits par Georges Chaffard dans son ouvrage « Les carnets de la décolonisation ».
Le journaliste, oui. Georges Chaffard.
Tout à fait, exactement. Et que nous avons découvert qu'il y a eu très clairement une correspondance entre Lamberton, le lieutenant-colonel Lamberton.
Donc l'un des chefs de la répression française.
Tout à fait. Qui aurait donc fourni à Georges Chaffard lui-même une recopie de ces carnets. Ce qui signifie donc qu'en fait, on a progressé sur sa traçabilité.
À partir de 1958, vous dites que côté français, la répression au Cameroun est également supervisée à Paris par Jacques Foccart, qui a donné l'ordre de tuer par empoisonnement Félix Moumier. Ce sera le 3 novembre 1960 à Genève.
Là encore, les ordres ne sont jamais écrits ou très rarement. Donc on a pu retracer une chaîne de commandement hypothétique, mais qui est réelle dans le sens où en fait on voit très bien comment cette chaîne de commandement a pu se mettre en place, tout simplement parce que nous avons eu aussi accès à des archives qui étaient jusqu'alors classifiées sur William Bechtel, qui était l'agent du SDEC qui a donc empoisonné Félix Moumier à Genève quelques jours avant son décès le 3 novembre, comme vous l'évoquiez. C'est assez intéressant parce que ces archives nous ont permis de creuser sur le portrait de cet agent qui apparaissait comme un simple honorable correspondant au départ, mais là on s'aperçoit que c'est vraiment un cadre du renseignement et quelqu'un d'extrêmement introduit, protégé, qui a même pu peut-être laisser beaucoup de preuves derrière lui car il savait qu'il ne serait absolument pas inquiété.
Alors vous écrivez qu'il s'agit d'un assassinat politique impliquant la responsabilité du gouvernement français. Est-ce que Foccart est dans le coup ?
Oui.
À l'origine de ce rapport que vous avez rédigé avec vos 13 collègues camerounaises et français, il y a une initiative du président français Emmanuel Macron. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de lui ?
Des suites. Nous lui avons formulé un certain nombre de recommandations. C'est une reconnaissance effective de certains faits par des discours, par une lettre. Ça s'inscrit évidemment, il y a aussi une très forte demande pour inscrire cette page d'histoire totalement méconnue ou très peu connue dans les programmes scolaires. C'est une évidence.
Alors du côté du Manidem d'Anissé et Canet, qui est l'un des partis qui se revendique de l'héritage de l'UPC, on dit que les Camerounais ne peuvent pas demander au bourreau de faire le bilan de son œuvre et que l'initiative mémorielle d'Emmanuel Macron vise en fait à disculper la France de ses responsabilités.
Je dirais que les historiens n'ont pas de nation. Ils travaillent en objectivité sur des archives et pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas illustrés pour avoir réalisé des travaux qui étaient à l'éloge des bourreaux. pour reprendre vos termes. Donc je pense que si vous voulez considérer qu'aujourd'hui en France, des historiens français ne peuvent pas écrire cette histoire avec objectivité, c'est faire injure à notre expertise.
Karine Ramondi, merci.
Entretien avec Christophe Boisbouvier. Votre chronique matière première sur RFI et ce matin, l'essor du commerce illégal de bois russe vers l'Europe, et cela dans le contexte de la guerre en Ukraine et en dépit des sanctions européennes prises à l'encontre de Moscou. L'ONG britannique Earthsight, réputée pour ses enquêtes relatives à la criminalité environnementale et sociale, prouve dans une étude que chaque jour, ce sont l'équivalent de 20 camions remplis de bois de bouleau qui entreraient sur le sol européen. Marie-Pierre Olfan.
Pendant 9 mois, l'ONG britannique à l'origine de l'enquête a joué aux acheteurs de bois pour rencontrer traders et exportateurs et ainsi obtenir des preuves du commerce illégal de contreplaqué de bouleau. Au terme de ces investigations, l'ONG a pu établir que chaque jour 700 mètres cubes de bois de bouleau russe arrivaient dans les ports et aux frontières de l'Union européenne. Le bois qui est expédié en Europe de l'Est, principalement en Pologne, mais aussi en Espagne, en Italie et au Portugal, est blanchi par des pays tiers, Turquie, Chine et Kazakhstan essentiellement. Les exportations de contreplaqué depuis ces pays-là ont étonnamment bondi après l'entrée en vigueur des sanctions contre la Russie. Et elles ne peuvent pas s'expliquer par une augmentation soudaine de la production locale. Au cours de l'enquête menée par Earthsight, plusieurs acteurs de ce commerce ont été filmés ou enregistrés à leur insu et montrent clairement qu'ils ont conscience d'enfreindre des sanctions. Du côté des clients, certains se disent persuadés que leur bois provient du Kazakhstan ou d'Ukraine, alors qu'ils s'alimentent auprès d'exportateurs qui ont admis, eux, sous le sceau du secret, faire du commerce illégal. Pour l'ONG, ces sociétés ont à minima manqué de vigilance sur la probité de leurs fournisseurs. Et cela est encore plus problématique quand on sait qu'elles sont à la tête de gros marchés. On retrouve par exemple parmi les importateurs le premier fabricant mondial de murs d'escalade. En plus d'être théoriquement soumis aux nouvelles sanctions européennes, ce bois ne devrait dans tous les cas pas rentrer dans l'UE, car il est soumis à ce qu'on appelle le règlement bois de l'Union européenne. Mais ce règlement est lui-même souvent contourné. Ce laxisme à géométrie variable profite aujourd'hui à plusieurs grandes entreprises russes. L'une d'elles est même dirigée par un oligarque proche du Kremlin qui figure sur la liste des sanctions de l'Union européenne.
La chronique matière première sur RFI signée Marie-Pierre Olfan. RFI, chaque jour sur notre antenne, 20 minutes de grands reportages réalisés par nos correspondants et nos envoyés spéciaux à travers le monde et un extrait à écouter en avant-première chaque matin. Aujourd'hui, direction l'archipel français dévasté de Mayotte au cœur de l'océan Indien, le 101e département français lourdement frappé par le cyclone Chido il y a un mois et demi. Et depuis ce drame, le sujet très sensible de l'immigration à Mayotte est revenu sur la table, entraînant fractures et crispations, alors que le gouvernement à Paris ne cesse de faire de la lutte contre les clandestins, surtout venus des Comores voisines, une priorité. Dans Mayotte dévastée, la fracture face aux sans-papiers, c'est un grand reportage signé Justine Rodier. En voici un extrait.
Le jour du cyclone, je n'ai pas bougé. On était à la maison avec mon mari et mes enfants. On est resté là jusqu'à ce que la maison s'effondre entièrement. C'est là qu'on est sorti. Le vent s'arrêtait pas de souffler. On a couru dans la maison en dur juste en bas. À la fin, on est ressorti, on est rentré pour arranger notre maison. On a essayé, mais je ne sais pas trop comment on va faire. Ici, ce n'est pas notre terrain. Nous louons cette parcelle. Je ne sais pas trop quoi dire.
Le 14 décembre 2024, le cyclone Chido dévaste l'île de Mayotte et balaye les habitations, notamment les bidonvilles, comme ceux de la Vigie en Petite Terre, où vit Aïcha, 23 ans.
Depuis Chido, je n'ai vu aucune aide. Mon mari essaye de bricoler pour gagner un peu de sous, pour que lui ou moi, on puisse aller chercher de l'eau pour boire. D'ailleurs, on n'a jamais été au courant qu'il y avait des distributions. Nous, on n'a rien eu. C'est seulement après la distribution qu'on nous disait qu'il y en avait une. Mais c'était déjà trop tard.
Du talus sur lequel elle vit, il ne reste presque plus rien. La végétation a été arrachée par le cyclone.
On brûle les déchets. Ce qu'on ne peut pas jeter, comme les couches des enfants, On les descend sur les tas d'ordures tout en bas. C'est mon mari qui le fait, parce qu'il a des papiers. Il avait un titre de séjour d'un an. Il a déposé la demande juste avant Chido. Moi, j'ai déjà été attrapée et renvoyée une première fois.
Elle a vite reconstruit sa maison, toujours avec des tôles.
On loue la parcelle à un Mahorais, 200 euros par mois. Donc on ne peut pas construire une maison en dur.
Malgré les conséquences dévastatrices de Chido, Aïcha n'a pas eu envie de retourner aux Comores. Elle aurait pu. Le Maria Galanta, le bateau qui fait la liaison, proposait des retours gratuits.
Moi, je ne vois aucune issue pour retourner à Anjouan. Je sais comment est la situation là-bas. Avant, j'habitais à Domoni, mais la situation était très compliquée. Je n'avais pas d'argent et on vivait dans la souffrance. Mon père m'a fait venir ici et m'a mariée avec un garçon. J'ai envie que mes enfants étudient. C'est la priorité. J'ai réussi à régulariser l'aîné qui a 4 ans. Pour les deux derniers de 3 ans et 7 mois, la procédure est en cours.
Selon l'INSEE, près de la moitié de la population de Mayotte ne possède pas la nationalité française. Pourtant, un tiers des migrants sont nés ici en France, mais ne sont pas régularisés.
Mayotte et ce grand reportage de Justine Rodier à écouter en intégralité aujourd'hui sur RFI à midi 10 et 20h40, heure de Paris, et sur toutes les plateformes d'écoute.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Tchad, après avoir contesté les résultats de l'élection présidentielle et boycotté les législatives, l'opposant Succès Masra se dit prêt à travailler avec le président Mahamat Idriss Déby. Que vous inspire ce revirement? Quelles en seront les conséquences politiques?
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
Depuis le Venezuela, je m'appelle Valentina, je suis prof de français et j'utilise le journal en français facile tous les jours en cours.
Le journal en français facile, Adrien Delgrange.
10 minutes pour mieux comprendre l'actualité mondiale en français.
C'est un super outil pédagogique qui permet d'évoluer dans la compréhension de l'oral et aussi d'être au courant de l'actualité internationale.
Le journal en français facile, c'est du lundi au vendredi à 16h temps universel.